genèveactive.ch.
Imomushi, d'après une nouvelle d'un auteur japonais de récits fantastiques qui s'appelle La Chenille. L'auteur, c'est Edogawa Rampo. Et le metteur en scène, David Girondin Moab, donc, nous présente ce huis clos sur le retour de guerre d'un officier. Cela débute peut-être à la manière de Johnny s'en va en guerre de Donald Trumbo, à la fois le film et le livre, évidemment, puisque c'est un personnage qui est également mutilé, qui n'a plus que son regard, qui n'a plus ni bras ni jambes. Et donc c'est un huis clos avec des présences fantomatiques, un voyage sensoriel. Qu'est-ce qui vous a attiré, David Girondin Moab, dans cette écriture, dans cette nouvelle La Chenille?
C'est ce qu'il y avait en charge de situation à explorer pour le plateau de théâtre, d'une part, et puis d'autre part, c'était le caractère inévitable d'une présence marionnettique. Ma formation est d'abord l'école de la marionnette de Charleville. Après, avec tout ce qu'on peut mettre de précaution dans la définition de ce mot marionnette, et en l'occurrence, on est plutôt dans un plateau de théâtre, des objets qui prennent vie, enfin en tout cas qui sont mis au service de ce plateau de théâtre pour faire ressurgir des personnages qu'on ne pourrait pas traiter autrement, ou des personnages... Des acteurs d'ailleurs prennent aussi une présence marionnettique pour s'approcher de ces objets vivants.
Pratiquer un art de l'entre-deux, c'est entre l'animé et l'inanimé. Il y a la présence d'un corps marionnettisé, il y a la présence également de marionnettes en format, dirais-je, plus réduit dans l'image. Et puis également, naturellement, vous convoquez plusieurs formes, plusieurs genres de la geste marionnettique, et notamment le théâtre d'ombre. Qu'est-ce qui appelait nécessairement justement la présence marionnettique par rapport au canevas de cette nouvelle?
Alors, la présence marionnettique était nécessaire parce que le personnage de Tsunaga, c'est la réponse évidente, je dirais. Bon, après, on va peut-être avancer un peu plus, mais c'est effectivement que Tsunaga est un personnage mutilé, sans bras ni jambes, vraiment littéralement un être qui a dépassé l'humain, qui l'a transfiguré ou qui est retourné vers l'animal, en tout cas qui l'a dépassé. Et cet être-là, il n'y a effectivement qu'une marionnette qui pouvait le traduire. Ça, c'est une première chose. À partir de là, c'est aussi un objet cette présence-là qui va irradier tout le plateau, en fait, et qui transforme même le réel de ce plateau. Avec cette présence, avec cette femme qui continue à vivre avec cette présence, avec ce vieux général qui héberge ce couple, on est immédiatement dans un huis clos et dans un monde qui n'est plus celui du réel, même s'il en a toutes les apparences. On est tombé dans un versant autre, et peut-être qu'en cela, on a réussi peut-être à s'approcher de l'univers d'Irai Taro, qui est le vrai nom de Dogawa Rampo, et voilà, qui cherche à nous emmener dans ces mondes frontières, avec une forte connotation d'érotisme.
Manière de mêler l'érotisme, Eros et Thanatos, qui est justement jusque dans les représentations que sont ces statuettes, les Netsuke, au Japon, c'est-à-dire dans lesquelles des corps féminins ou masculins, comme dans les Ars Moriendi au Moyen-Âge, font l'amour avec des personnes mortes ou presque mortes ou revenant de l'au-delà. Il y a quelque chose qui frappe déjà dans la création de ce qui pourrait être à la fois une lymphe, quelqu'un qui est emmailloté, puis en même temps il a les stigmates un petit peu comme des personnes retrouvé sur Pompéi, c'est-à-dire qu'il conjugue à la fois les premiers jours de la vie et les derniers jours avant de revenir à un liquide amniotique qui sera l'eau du puits. Je ne fais pas de la psychanalyse à 4 francs 6 sous, mais j'entends, il est clair que là, il y a une question aussi, quelque part, au travers de cette maïotique, d'une sorte de naissance, d'apparition de forme.
Tout ça est vrai et très intéressant, et en même temps, on pourrait peut-être se dire aussi qu'on est dans... En tout cas, c'est une volonté dans ce spectacle, c'est de revenir, ou en tout cas de s'approcher de quelque chose de très rituel, ce rite-là du plateau de théâtre et de la résurgence de ces personnages qui sont finalement des fantômes, parce qu'il y a aussi un travail sur le temps qui fait qu'on doute sans arrêt du présent, du passé, à quel moment on est effectivement, mais on est dans un non-temps, on est dans une résurgence de personnages, on est dans un temps figé dans l'ambre qui se répète finalement à l'infini. Et à partir de là, on est aussi à la recherche, à travers ce rituel, d'une acceptation d'un passage, que ce soit celui de l'arrivée dans la vie ou du moment aussi où on doit la quitter. Et en cela, voilà, le passage, c'est vraiment l'initiation même, c'est le rite, c'est l'origine de l'homme, en fait.
L'extrême ritualisation que l'on trouve, c'est peut-être cette définition assez simple que donnait Paul Claudel du théâtre nu, c'est-à-dire qu'il disait que le théâtre nu, c'est quelqu'un qui vient. Et il y a donc beaucoup de passages, d'entrées qui se font de manière ritualisée aussi, par cercles concentriques, qu'on pense à ce général qui rappelle lui-même, à la fois dans sa démarche et dans la forme de son manteau, une forme d'exosquelette d'insecte.
C'est assez drôle. En même temps, je lis tout ça, ce qui est une... Enfin, j'entends bien ce qui est une deuxième lecture de spectateur ou une troisième lecture aussi quand on est spectateur immergé, ce qui est encore un autre niveau. Et en même temps, on est avec une certaine simplicité dans une traduction de la nouvelle, puisque le vieux général radote. C'est assez drôle. Mais cet élément de radotage, c'est aussi ce qui fait que le temps n'existe pas sur le plateau et il n'existe pas très bien non plus dans la nouvelle. Ce général qui radote, c'est un souvenir permanent pour la jeune femme qui se souvient de ce qu'il lui répète sans arrêt. Il lui répète sans arrêt cette même chose. Il lui répète sans arrêt qu'elle est une bonne épouse, qu'elle est dévouée. Et ça tourne à l'écœurement. Ça lui rappelle dans la nouvelle, dans la narration, un plat au gingembre assez amer. Je précise ça parce que je veux aussi signaler qu'il y a une forte sensualité dans la nouvelle. Il y a des tas d'éléments comme ça qu'on a essayé de traduire sur le plateau. C'est extrêmement compliqué, la tridimensionnalité de ces sensations sur le plateau, mais effectivement, c'est aussi des choses qu'on a essayé de faire exister d'une manière prégnante, peut-être avec le son, avec la lumière, avec ces personnages curieux, évanescents, comme des coquilles vides qui tournent sans fin, peut-être aussi un peu à la manière de... C'est alors une autre référence plutôt livresque, mais à la manière de ces personnages de L'Olfobio y Casares dans L'Invention de Morel, qui sont ces personnages à un moment donné qui ont été capturés par un nouvel appareil cinématographique révolutionnaire, mais qui a également pris leur vie et qui les a mis dans un processus de répétition sans fin d'une existence vide, décharnée, infernale.
Le plateau est un peu comme une plaque photosensible. On parlait de traces, on parlait de manière d'impressionner une image. Et vous avez créé donc un paravent en forme de retable, donc à trois volets, dans lequel, par exemple, cette écriture, alors on n'est pas chez Peter Greenaway, mais j'entends il en a fait un célèbre film, mais disons cette écriture qui vient quand même par un pinceau qui est mis dans la bouche de ce lieutenant Tsunaga par son épouse, arrive à produire, disons, une espèce de signe comme ça, de coulée, et en trois volets qui sont interprétés par cette femme.
On a joué sur un fil, parce qu'effectivement, on avait envie de... C'est compliqué, c'est une nouvelle japonaise. On a vraiment envie de faire quelque chose de japonisant. Mais en même temps, on a envie de s'approcher de ces codes-là qui sont extrêmement structurés, que sont l'écriture japonaise. Et en même temps, on veut traduire le degré de sensibilité. Il écrit, elle comprend, elle interprète ce qu'il veut dire, etc. Il écrit avec sa bouche. Il a plus de... Évidemment, c'est avec ses dents qu'il écrit comme ça sur sa table. Et finalement, on a cherché à inventer une écriture, une espèce de chose cunéiforme qui reviendrait à tisser un lien un peu ténu entre eux, qui serait ce maigre fil du langage. C'est peut-être le seul moment de communication réelle qu'ils ont. Sinon, tout passe par le regard et par tout ce qu'il peut y avoir de malentendu à cet endroit-là, à la fois sur ce que l'un veut signifier à l'autre, mais aussi à la fois un malentendu sur ce qu'est réellement ce personnage de Tsunaga. C'est-à-dire, est-ce qu'il comprend encore ? Est-ce qu'il est passé à un état animal ? Qu'est-ce qu'un animal comprend, d'ailleurs, quand on lui parle ? Voilà, c'est toutes ces questionnement-là qu'il peut y avoir avec cet homme transformé, devenu autre, diminué, réduit, animalisé ou dédité peut-être.
Non, c'est toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que comme dans la métamorphose de Kafka avec le personnage de Grégoire Samsa, on se demande quelles sont les rémanences de l'humain dans ce qui ne l'est plus, et inversement d'ailleurs, comme par exemple dans La Mouche de Cronenberg aussi, il y a un aspect justement où les dernières choses peut-être qui sont des restes d'humanité passeraient par ce regard, et puis en même temps il y a cette manière assez obsédante, on sait que Grégoire Samsa en avait une autre pour se signaler dans sa métamorphose, qui est vraiment extrêmement rythmique, très insistante, presque un langage à lui tout seul, cette manière qu'a de s'exprimer ce corps qui n'est plus qu'un moignon.
Effectivement, il frappe avec sa tête le matelas sur lequel il est toute la journée, il ne quitte jamais, Et c'est sa manière à lui de simplement demander quelque chose. Il a toujours quelque chose à demander. Donc c'est effectivement à cet endroit-là que c'est intéressant. C'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'il veut. Enfin, sa femme ne sait absolument pas ce qu'il veut. Mais il veut toujours quelque chose. Il est toujours en train de demander quelque chose. Et c'est, voilà, c'est autour de ce questionnement-là que s'articule un peu leur vie avec effectivement tout ce que ça peut avoir d'obsédant. Ça excède sa femme énormément et c'est cette chose-là qui fait aussi monter la violence jusqu'à l'acmé fatal, puisqu'il lui demande quelque chose qu'elle ne comprend jamais par son regard et elle finit par le couper de ce dernier lien qui le lie encore un peu au monde des humains.
Il y a aussi un aspect d'expérimentation médicale. Qu'est-ce qu'il en était ici par rapport justement à cette fierté de maintenir ce corps en vie qu'on retrouve d'ailleurs actuellement, encore maintenant, dans un certain nombre d'opérations, dans des corps qui n'en sont plus?
Alors effectivement, c'est le point de départ de la nouvelle. C'est également un des points de départ du spectacle. C'est pas le point de départ, mais très vite quelque chose qui nous permet de bien resituer le climat dans lequel ça se passe. Et c'est surtout, je crois, une manière pour la femme d'accepter le fait établi. Je pense qu'il lui livre cet objet-là, effectivement, plus comme un objet d'expérience. En fait, je vais peut-être un peu décalé parce que je crois que ce que j'ai trouvé surtout intéressant à cet endroit-là, alors évidemment, il y a la prouesse médicale, on sent très bien qu'on est aussi, et ça c'est très intéressant, un endroit de basculement par rapport à la technique de l'humain, à cet endroit-là, voilà, où on arrive à sauver un corps, à livrer quelque chose qui n'est plus humain. Aujourd'hui, on en est à transformer l'humain, donc on est quand même à des endroits intéressants, peut-être les balbutiements après la guerre ont des expérimentations sur l'humain. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que Edogawa Rampo ne situe pas la guerre. Il l'intemporalise également, en fait. C'est un objet complètement abstrait. En ça, lui livre aussi sa part de monstruosité. Tsunaga, est un être vivant revenu de la guerre avec sur son corps tous les signes de la mort, en fait. Il est la mort incarnée à travers la guerre. Je pense aussi à quelque chose qui tisse du lien avec le buto, c'est que c'est effectivement le buto est une danse qui a été créée, qui est née au sortir de la guerre. Et voilà, c'est peut-être tout naturellement, mais ça s'est pas fait d'une manière extrêmement pensée. Buto, on en pratique dans la compagnie. Certains plus ou moins, mais depuis longtemps. Et je pense que le lien était inconscient, parce qu'avec la marionnette, c'est vrai qu'on travaille le buto sur le corps comme voilà, pour s'aider à avoir un corps marionnettisé, en tout cas pour penser le corps en tant qu'objet. Et là, c'est effectivement naturellement qu'il y a peu à peu le buto qui est là, présent en germe, et puis qui gagne sur le plateau jusqu'à effectivement peut-être on pourrait appeler une scène de danse buto qui précède la crevaison des yeux et qui est l'acmé du spectacle, en tout cas l'acmé désiré.
Ce qui m'a énormément touché dans cette pièce, c'est justement cet érotisme, cette sensualité, aussi rapport de pouvoir par la suite, mais vraiment entre Tsunaga et son épouse Tokiko, puisqu'ils font l'amour, il y a une manière de cette marionnette humaine, vous m'expliquerez, de vibrillonner, de réagir.
Ce qui se passe, c'est que ce personnage, cet homme tronc, devient rapidement, pour Tokiko, un objet sexuel. En toute simplicité, il est lui-même réduit. Je crois que là où vous direz que les deux continents, avec leurs différences, vont se rejoindre, c'est qu'il est dans une avidité de désir primaire. Ils sont manger, boire et faire l'amour, puisqu'il réclame sans arrêt. Donc les choix ne sont pas trop compliqués pour elle, mais il y a celui-ci qui revient de plus en plus. Il devient une bête à désir, et elle finit par le considérer peut-être pour ce qu'il est sur le plateau, c'est-à-dire un objet. Elle l'objetise de plus en plus, au point d'en faire, encore une fois en toute simplicité, un godemiché vivant. Et donc c'est comme ça qu'elle l'utilise, peut-être même de manière encore un peu plus poussée et matricielle dans une des scènes où elle l'intègre complètement à son corps en l'introduisant dans son sexe.
Vous avez beaucoup travaillé notamment sur le son, on parlait de ce moment de tango, puisque le son est à la fois diffracté, déformé, ça devient véritablement une matière ductile, hein, ce son chez vous.
Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les bandes-son avec Uriel Barthélémy, avec qui on travaille depuis le début. vue sur les spectacles au sein de la compagnie. Et effectivement, c'est, on les cisèle comme un matériau très sensible. Et je crois vraiment que ça fait partie de, peut-être d'un travail du théâtre qu'on voit peut-être et heureusement de plus en plus actuellement, et qui considère que tout fait sens finalement. Au sens aussi au niveau sensuel, mais aussi au niveau intellectuel, et que tout apporte des éléments de compréhension à l'esprit. Et que ce soit aussi d'une manière symbolique et onirique, sensible à tous les niveaux, je dirais.
Quelques éléments encore, donc concernant la scénographie, qui est un peu tripartite, et puis la partition lumière, qui est extrêmement particulière.
Alors effectivement, la scénographie est extrêmement tripartite parce que elle est composée à l'avant-scène d'herbes folles qu'on retrouve dans le jardin en friche de la nouvelle, jardin en friche au fond duquel il y a le pavillon délabré dans lequel ils vont habiter, qu'il aurait octroyé par le général Awashio. Voilà pour tout dire du huis clos spatial, puisqu'ils sont également dans un endroit très confiné. Donc à l'avant-scène, comme vu à la loupe, ce sont ces herbes folles qui symbolisent ce jardin. Au milieu, il y a une sorte d'espace intermédiaire, un espace de vie avec le lit de Tsunaga, les paravents qui vont être mobiles, qui vont effectivement servir à composer un peu l'espace. Et puis au fond du plateau, c'est un espace noir dans lequel on ne va jamais. C'est vraiment peut-être l'espace de la mémoire, du surgissement, de là d'où jaillissent les personnages. Et c'est ces trois espaces-là qui composent l'espace, avec un travail très ponctuel de la lumière qui permet d'isoler encore davantage les personnages et les scènes. Effectivement, les personnages, comme vous le disiez, sont dans chacun dans un dans un monde fermé, en fait.